On en parle tellement dans l'actualité, des barrages, des blocus, des chemins de fer à travers le pays, puis je dois vous dire que ça nous ramène des souvenirs. Ça nous ramène des souvenirs à nous au Québec, ça ramène des souvenirs également aux gens dans l'ouest du pays. En Ontario, il y a eu toutes sortes d'incidents au fil du temps qui impliquent des gens des nations autochtones et notre gouvernement, les forces policières qui sont rentrées là-dedans. Ça a laissé des marques, ça a laissé des cicatrices, puis on dirait qu'à chaque fois maintenant qu'il y a un conflit ou qu'il y a quelque chose qui ne fait pas l'affaire d'un groupe autochtone, ben le moyen ultime, c'est on fait un barrage. Et ça, ça fait dire aux Québécois, entre autres, que j'entends tout le tour de moi, « Bon, ça y est! Encore une fois, ils ne sont pas contents. Eux autres, ils ont le droit de bloquer les chemins de fer. Nous autres, on n'a pas le droit de faire ça. » Et on dirait que ça va ajouter aux préjugés encore présents contre les Autochtones. Avec nous ce matin pour en parler, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Québec-Labrador, M. Ghislain Picard. Bonjour, M. Picard.
Bonjour.
Merci de prendre le temps pour nous ce matin. On me dit que vous êtes dans la région de l'Outaouais. Êtes-vous partie intégrante ou prenante des négociations avec le gouvernement?
Pas directement, mais il faut savoir qu'on a des collègues à travers le pays, dont celui qui occupe sensiblement les mêmes fonctions que moi pour la Colombie-Britannique. Donc, on est en contact régulièrement pour savoir ce qui se passe là-bas, mais mes autres collègues également, principalement de l'Ontario aussi, pour être à jour sur l'évolution de la situation et toujours dans le souci de pouvoir transmettre l'information la plus juste possible à nos chefs au Québec et Labrador.
Quelle est la principale revendication derrière ça? Pensez-vous que c'est charrié un peu, vous, en tant que tel, ou si vous pensez que c'est justifié ce qui se passe actuellement?
Bien, il faut sans doute connaître un peu plus l'histoire de la nation Wet'suwet'en, qui n'en est pas à ses premières, appelons ça, revendications, et qui a toujours insisté, je vous ramène à la fin du 19e siècle, hein, qui a toujours insisté sur le respect de leurs droits, puis le respect de l'occupation historique traditionnelle de leur territoire. Et c'est pas un cas isolé, parce que même au Québec, il y a des nations qui militent depuis plus d'un siècle là, pour un plus grand respect, une meilleure reconnaissance de leurs droits sur le territoire. Et ce que j'ajoute à ça, ben, c'est évidemment la notion, le concept de droit territorial ou de titre sur le territoire qui a été cité plus d'une fois devant la Cour suprême du Canada, et d'où origine des grandes décisions qui confirment que c'est fondé. Donc, il y a ce contexte-là, là, qui, évidemment, qui est évacué ou négligé là dans la situation actuelle, dans le contexte actuel, parce que de toute évidence les gens mettre un peu les yeux sur la situation et comment on peut trouver une façon de la résoudre.
Ouais. Alors, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des jugements qui disent que vous avez des territoires, puis le Canada a empiété sur des territoires autochtones, puis là, on veut pas respecter les jugements de la Cour ou les ententes qu'il y a eu entre le gouvernement canadien et les nations autochtones. En gros, c'est ça la base du problème.
Ben, oui, tout à fait. Puis c'est comme ça depuis que le Canada est le Canada. Ça fait partie de la réalité. Puis, écoutez, c'est peut-être une ironie, mais quelque part, le tracé ou les tracés de chemin de fer à travers le pays sont fondés là-dessus, dans le sens qu'on a toujours voulu écarter les peuples autochtones de leurs territoires ancestrales pour faciliter le développement. Et sachez que l'histoire, même qu'on connaît un peu mieux aujourd'hui, nous rappelle aussi que même le premier ministre du Canada, M. McDonald, Sir John A. McDonald, avait comme visée de vraiment assimiler les peuples autochtones. Donc, ça a toujours été une question de lutte. Les nations autochtones ont toujours été placées malgré elle, devant l'adversité. Donc, il y a l'histoire récente, l'histoire moins récente, je pense, qui nous enseigne que les Autochtones ont toujours été, en quelque sorte, sur la défensive. Mais C'est un peu pour ça, c'est de là que naissent les arguments okay. qui ont dirigé, guidé plutôt la Cour suprême du Canada dans ses décisions.
Mais ça, je pense qu'il y a une majorité de citoyens canadiens qui reconnaissent vos droits, puis on espère que ça va se régler dans une négociation avec les autorités du gouvernement canadien. Là où il y a un problème, c'est les moyens que vous utilisez pour en arriver aux fins, ben, en fait que vous, je devrais pas dire ça, que les nations autochtones ou que certaines nations utilisent pour en arriver à ces fins-là. Et ça, j'ai l'impression, puis vous me corrigerez si j'ai tort, M. Picard, mais on dirait que les moyens qu'on emprunte, ça vient encore plus diviser, ça vient encore ajouter aux préjugés que les gens ont sur les peuples autochtones.
Ben, écoutez, de notre côté, puis j'essaie de faire un tout avec plusieurs opinions que j'entends. De notre côté, c'est de dire aussi, bon, quand est-ce qu'ils vont comprendre? Et écoutez, on a tous, vous y référiez un peu plus tôt, la crise d'Oka en 1990, et 30 ans plus tard, le problème demeure entier. Et même à cela s'ajoutent plusieurs autres situations qu'on a vécues, qui ont été tendues, hein, je pense à Gustafson Lake, en Colombie-Britannique toujours, Aprewash en Ontario. Je vous ramène même au début des années 80 dans la communauté de Listigouche en Gaspésie, où il y a eu une invasion policière de la Sûreté du Québec. Et lorsqu'on fait le cumul de tout ça, le bilan qu'on en fait, le résultat qu'on a devant nous, c'est qu'on finit toujours par régler une crise comme celle qui perdure en ce moment, qui va trouver une solution, j'en suis convaincu. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qu'on a pour offrir, installer ce qu'on appelle la bonne foi et la confiance pour trouver une façon durable de régler ces litiges-là? Et on repart toujours... On nous ramène toujours à la case de départ. C'est malheureux que ça soit comme ça, mais il n'y a pas, je dirais, de volonté politique pour une paix durable. Donc, il y a aussi ça comme héritage récent que nous avons et qui met aux prises, oui, les nations autochtones, mais on dirait que souvent, trop souvent, l'odieux retombe facilement dans notre cour, alors qu'il y a une responsabilité politique aussi.
Oui, mais quand il y a un conflit entre deux parties, là, normalement, il y a un conflit, on essaye de le régler, puis quand on n'en vient pas à une entente, on a recours aux tribunaux. Là, je ne sais pas jusqu'à quel point le tribunal se prononce en faveur, en votre faveur ou en faveur du gouvernement du Canada. Mais là, c'est le tribunal populaire qui se prononce. Puis le tribunal populaire, lui, il entend des barrages ferroviaires, des blocus sur les chemins de fer qui engorgent l'économie, qui va coûter des centaines de millions de dollars, c'est ça qui est dangereux. Puis normalement, quand il y a un conflit puis on vient pas à bout de se résoudre, il y a une bataille. C'est plate à dire, mais on s'est rendu là. Il y a des gens qui vont devenir violents, plus ça continue. Puis l'histoire, vous l'avez très bien dit, nous a amenés jusque-là. C'est ça qui est plate.
Bien, écoutez, ce qui est injuste, c'est que l'odieux nous appartient entièrement. Je veux dire, il n'y a rien qui est dit par rapport à la lenteur du processus politique. Oui, on reconnaît que le gouvernement fédéral, celui qui est là présentement, a fait certaines avancées sur plusieurs fronts, d'ailleurs au niveau social, au niveau économique. Mais lorsqu'on parle d'économie, on parle aussi de la possibilité pour nos communautés de se créer une base, une assise, ce qui est loin d'être le cas. Et tout le monde sait que le territoire, c'est le nerf de la guerre. Parce que si on savait pas ça, là, on verrait pas ce qui se passe partout au pays où il y a l'industrie qui s'enrichit à n'en plus finir, avec très peu de retombées pour les nations autochtones dont les droits ont été bafoués. Il y a aussi ça comme questionnement qu'il faut se poser. Et sachez que de notre côté, bon, si les nations autochtones disent qu'il fallait que ça en arrive jusque-là, c'est que, quelque part, le processus a été abusé, épuisé. Et vous parlez des cours, puis les cours, c'est là qu'on se rend malgré nous. C'est qu'il y a une faille dans le processus politique qui devrait être transparent, ouvert, mais qui devrait aussi donner des résultats. Donc, il y a tout ça également dans le contexte là qui évidemment qu'on essaie de faire valoir. Mais présentement, je sais qu'il y a des pourparlers à différents niveaux. Je ne suis pas directement impliqué, comme je le disais plus tôt, mais je suis informé et je suis convaincu que qu'on est proche d'un règlement qui va au moins amener les parties à la table.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps, M. Picard. Je sais que vous avez d'autres engagements. Merci d'avoir pris le temps pour nous ce matin dans l'Outaouais. C'est important de préciser de quoi il s'agit. Je pense que vous l'avez bien expliqué ce matin. Merci.
Merci de m'avoir reçu. Au revoir.
Au revoir. Monsieur Ghislain Picard, la dimension autochtone est importante. J'entends souvent « Ah, les maudits Indiens, encore en train de bloquer. » Oui. On devrait sortir à coups de pied dans le derrière, puis à coups de... Eux autres, là, ils ont fait des revendications devant les tribunaux, ils ont eu gain de cause. Fait qu'eux autres, ils disent « Quand est-ce qu'on applique ça, là? Qui va le faire? » Puis ultimement, quand on veut passer des projets comme le Coastal Gas Link sur leur territoire, ils lèvent le drapeau rouge puis ils disent non, excusez, là, ça ne marchera pas. Quel moyen, si on ne respecte pas un jugement de la Cour, ont-ils pour se faire entendre? Ah, moi, je suis comme vous, là. Ah, ça me fait bien suer qu'ils bloquent le chemin de fer. Mais quand tu arrives au bout du rouleau et il n'y a personne qui t'entend, tu fais quoi? Tu fais quoi? Ça va finir comment? Hein? Espérons que ça ne va pas finir de la mauvaise façon. Vous avez entendu un des chefs de l'Assemblée des Premières Nations, un homme très réservé, très calme, qui veut juste le gros bon sens. Souhaitons que ça se termine dans le gros bon sens.